Grégoire Tonna, bonjour.
Bonjour.
Le petit quiz de la Grande Guerre, voilà un livre dont il fallait absolument parler aujourd'hui. Alors c'est un petit livre, un petit ouvrage, le petit quiz donc, la Grande Guerre. Et vous nous le rappelez, hein, cette Grande Guerre, c'est très bien d'ailleurs de le faire. C'est 1 400 000 Français qui trouvent la mort lors de cette guerre 14-18. Alors, quel est l'intérêt aujourd'hui en 2016 de parler de cette Grande Guerre, Grégoire Tonna? Rappelez-nous pourquoi c'est important.
Ben, moi, ce qui m'a semblé important, c'est que d'abord, la Première Guerre mondiale, on peut dire que c'est la matrice principale du XXe siècle. C'est-à-dire que sans la Première Guerre mondiale, il n'y a pas la révolution bolchevique et l'arrivée des communistes, il n'y a pas les montées du fascisme et du nazisme, et donc les gènes de la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui s'ensuit, etc. Donc c'est un événement majeur du XXe siècle, donc ça me semblait important. Je me suis aperçu, et là c'est très personnel autour de moi, que beaucoup de gens, de mes amis, en fait avaient perdu les repères de base. Mais quand je dis des repères de base, c'est vraiment de base sur ce sujet-là. Alors on peut comprendre que, évidemment, c'est loin puisque ça fait 100 ans, évidemment les cours sont loin, et évidemment tout le monde n'est pas passionné d'histoire comme je le suis. En revanche, et pour autant, c'est une tragédie, c'est la première saignée de l'Europe, il y en a une autre après 20 ans, donc ça me semblait important de redonner ça. Et de le mettre à la portée du plus grand nombre. Tout à l'heure, vous avez dit en préambule 1 400 000 morts. C'est énorme. Je parle de Français, on peut parler des autres, mais je me mets côté Français. L'idée de ce petit livre, c'est de mettre sans question-réponse, donc sans point clé, ils font un petit tableau sur ce sujet qui est évidemment immense. Mais on a essayé avec l'éditeur Pierre de Taillac, de mettre ça à la plus grande portée des gens. Nous, on a des lecteurs de 10 ans et puis des passionnés, voilà. 1 400 000, en fait, ça ne veut rien dire aux gens. Quand vous dites juste ça, ça ne veut rien dire. Ce qu'on a essayé de faire, évidemment, on cite ce chiffre-là, mais derrière, tout de suite après, c'est de dire, si on fait une moyenne, bien sûr, c'est 800 morts par jour. 800 morts par jour. Aujourd'hui, quand vous avez un soldat français qui tombe au Mali ou en Afghanistan, comme ça a été le cas avant, évidemment, ça choque et ça heurte, etc. Remettons-nous à l'esprit ce chiffre-là, 800 morts par jour.
Ça, c'est absolument hallucinant.
Voilà, alors, on ne comprend pas. Voilà, pardon, sinon on ne comprend pas. Allez-y. Pardon.
Alors Grégoire, oui, alors vous l'avez dit, sans question-réponse pour ce centenaire, sans question-réponse, et ça s'adresse à tous, hein, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, parfois les cours sont un peu loin, il y a plein de choses qu'on a oubliées. Ça va de l'anecdotique au très important. Par exemple, c'est intéressant de rappeler comment tout cela a commencé. Pourquoi cette Première Guerre mondiale commence-t-elle un jour?
Oui, et puis qui déclare la guerre à qui? Parce que à cette question-là, si on faisait le test, je ne suis pas sûr que tout le monde sait répondre. J'étais hier dans une école dans le 78 avec des élèves de CM2 qui m'affirmaient, évidemment ils ont 10 ans et ils commencent l'histoire, etc., mais qui me disaient que c'était l'Allemagne qui avait gagné la guerre. Zut, bon, ça commence mal. Alors je ne parle même pas de savoir qui a démarré et qui a déclaré la guerre à qui. Il faut le redire, c'est l'Allemagne qui nous déclare la guerre. Ce n'est pas le cas en 39. C'est nous qui déclarons la guerre aux Allemands. Bon, tout ça peut paraître des détails, ça n'en est pas, en fait. Voilà.
Alors, les batailles les plus sanglantes de cette Grande Guerre, évidemment, elles sont présentes hein, autour de ces 100 questions. La bataille la plus sanglante de cette guerre, c'est pas celle de Verdun.
C'est pas Verdun, non. Alors, pour autant, c'est la plus grande bataille et la plus sanglante pour l'armée française, puisque c'est un conflit, là, c'est une bataille franco-allemande. En revanche, la plus sanglante, c'est la bataille de la Somme, qui oppose les franco-britanniques aux Allemands. Et les chiffres sont un petit peu plus importants. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est autour de 440 000 morts, la bataille de la Somme. Verdun, on est au global français-allemand à 300 000. Bon, on parle de chiffres, une fois de plus, qui sont... monstrueux,
hein, c'est évidemment dans les deux cas deux chiffres monstrueux, nous sommes bien d'accord hein, Grégoire. Et pourtant c'est à Verdun que se déroule, dites-moi si je me trompe, chaque année les commémorations.
Alors il y a des commémorations un petit peu partout. Cette année elles ont un caractère un petit peu particulier puisque nous sommes en 2016, c'est le centenaire de la bataille de Verdun qui pour nous Français évidemment est emblématique. Il y a quelque chose qu'il faut dire sur la bataille de Verdun. ce lieu, ce site, je pourrais y être allé plusieurs fois et je vais y retourner encore sous peu, c'est la plus grande confrontation de l'histoire de l'humanité. Sur une si petite bande de terre, autant d'hommes se sont combattus. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas d'équivalent sur un périmètre comme celui du champ de bataille de Verdun. C'est terrible, en fait. C'est ça qui est terrible, c'est ça que les gens retiennent. La première fois que je suis allé à Verdun, j'avais une image dans la ville, je pensais que c'est une grande ville. En fait, Verdun est une toute petite ville. Mais en fait, le nom a une telle résonance que je ne sais pas. Je pensais que c'était une grosse ville, ce qui n'est pas du tout le cas.
Enfin, ouais. Alors, tout à l'heure, je parlais d'anecdotique, mais il y a plein de petites choses que l'on apprend en vous lisant. Les poilus, par exemple. Pourquoi cette dénomination pour nos soldats? Le poilu.
Alors ça, c'est une légende urbaine qu'on apprend encore aujourd'hui aux enfants. Le poilu, en fait, le mot poilu, c'est un terme d'argot du 19e siècle et qui a été utilisé dans les tranchées et qui caractérise un homme courageux, un type qui a du poil aux bons endroits. En gros, un couillu. Voilà. Et pas un type qui a du poil dans la main. Donc, un poilu, ce n'est surtout pas quelqu'un qui se laisse pousser la barbe ou les cheveux et qui se néglige. Ce n'est pas le cas. Donc, il ne faut pas inverser les choses, et c'est important de le redire. Et puis, pour une deuxième très bonne raison, c'est quand vous êtes sur la ligne de front, vous êtes un poilu, un soldat dans les tranchées, à partir de 1915, à partir du début de l'année 1915, avril 1915, vous avez une arme terrible qui apparaît sur le champ de bataille, c'est la guerre des gaz. Et donc, évidemment, très vite, on s'équipe, et très vite, apparaissent des masques à gaz. Quand vous êtes barbu, le port du masque à gaz, il n'est pas optimal. Ça veut dire qu'il y a un risque que le gaz passe au travers de la barbe. Donc, je peux vous dire que les poilus qui sont en première ligne, même s'ils ont du mal à avoir de l'eau, ils se rasent parce que c'est une question de vie ou de mort.
Voilà. Eh oui, bien sûr. Le moulin à café, la machine à découdre,
oui,
également.
C'est la mitrailleuse, et en fait, c'est à cause de la mitrailleuse que les hommes s'enterrent. Les premières semaines de la guerre sont les plus terribles en pertes humaines. Le 22 août 14, 27 000 soldats français tombent dans les plaines du nord et de l'est de la France. Pour vous donner un petit rapport, puisque nous sommes en Normandie, et les plages du débarquement, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'à la fin du 6 juin 44, les Alliés ont perdu sur les plages normandes entre 5 et 6 000 hommes, à vérifier, ouais. C'est dans cet ordre-là. L'armée française, à elle toute seule, en une journée, perd 27 000 hommes. Pourquoi ? Parce que en face d'eux, vous avez les Allemands qui sont équipés de mitrailleuses, les Français en ont aussi, mais dès que vous avez une charge, la puissance de feu d'une mitrailleuse avec 2-3 servants, elle vous ratatine les gars. Donc c'est pour ça qu'après, très vite, on s'enterre dès la fin de 14, c'est qu'on commence à creuser les tranchées et que la guerre va être statique jusqu'aux grandes offensives de 1918. La mitrailleuse, c'est elle qui stabilise le front. Voilà.
Alors vous nous expliquez tout ça, hein, Grégoire, la voie sacrée, le chemin des dames, les grands cimetières militaires en France, vous répondez à toutes ces questions qu'il est important, hein, de se poser aujourd'hui encore. Est-ce qu'elle aurait, dernière question, pu durer moins longtemps cette guerre? Est-ce que l'on aurait pu éviter une telle boucherie sur une si longue période?
Alors moi, j'ai du mal toujours à faire de l'histoire-fiction. Oui, bien sûr, il y a eu des négociations entre les différents belligérants pour essayer d'arrêter la guerre, notamment les Autrichiens au milieu de la guerre. Voilà, on peut pas réécrire l'histoire. Pour certains, la guerre de 14, c'est pas terminée en 1918, mais c'est terminée en 1919. Beaucoup de soldats sont restés mobilisés, notamment sur le front du côté des Dardanelles, etc. Où là, la guerre a continué plus tard. Et des gens qui ont été mobilisés dès 14, ils ne sont pas arrêtés en 18, mais ils sont arrêtés en 19. Ouais. Donc, il y a des gens qui parlent de la guerre 14-19. Voilà.
Merci beaucoup en tout cas pour votre éclairage cet après-midi, Grégoire Tonnat. On offre le petit quiz de la Grande Guerre. Et puis, sinon, si on ne l'a pas gagné cet après-midi, on peut le trouver facilement, ce quiz.
Oui, dans toutes les bonnes librairies. Et puis, évidemment, librairies en ligne. Et puis, surtout, dans tout ce qui est sites, les principaux sites et lieux de mémoire de la Grande Guerre. Verdun, Péronne, Douaumont, dans les Vosges, etc. Voilà.
Édition Pierre de Taillac. Voilà. Merci beaucoup, Grégoire.
Mais c'est moi qui vous remercie.